Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ils pillent les ressources naturelles comme l'or, les minerais, les diamants, le bois, le pétrole et revendent aussi des bêtes sauvages. Les terroristes, groupes armés non étatiques et mafias en tout genre se financent avant tout par le trafic de ressources naturelles. 38% de leurs revenus selon Interpol et des ONG qui publient une étude inédite montrant que ce pillage rapporte encore plus que le trafic de drogue. 165 millions de dollars par exemple pour les ventes d'ivoire depuis l'Afrique vers l'Asie, 10 millions par an pour les Shebab, ces islamistes radicaux somaliens qui exploitent le charbon de bois, l'or noir de l'Afrique. Deux hommes comparaissent cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris dans une nouvelle affaire de terrorisme djihadiste. Un père et son fils de 23 ans partis rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie, puis soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat en France, dans leur viseur, la Tour Eiffel. Objectif présumé et profil plutôt inquiétant, Florence Turme.
Le père, d'origine tunisienne, naturalisé français, est ingénieur dans les télécoms, un homme brillant, cultivé, qui possède sa propre entreprise à Aermont, dans le Val-d'Oise. Le 29 octobre 2013, son ex-épouse se présente au commissariat pour signaler la disparition de ses deux fils, âgés de 17 et 20 ans. Le père a prétexté des vacances aux Pays-Bas pour les emmener avec lui en Syrie. Ils vont y rester un an et demi, expliqué lors de leur arrestation en Turquie, avoir été séquestrés par l'organisation État islamique. Mais les éléments du dossier livrent une toute autre réalité. Celle d'abord d'un départ minutieusement préparé. Appartements et comptes bancaires vidés, doublés d'un prêt à la consommation, nombreux échanges téléphoniques et recherches sur des sites djihadistes. Sur place, à Raqqa, le père semble même avoir tenu une place de premier plan. À l'un de ses anciens collègues, il se vante lui-même d'être le directeur général des télécommunications en Syrie. Ses fils, eux, apparaissent sur des photos les armes à la main. Mais plus encore que leurs activités en Syrie, c'est leur retour sur le sol européen qui interroge. Dans leur bagage, les enquêteurs découvrent près de 12 000 euros en liquide, un disque dur avec des documents sur la manipulation de produits chimiques, le pilotage d'un Boeing, des cartes d'aviation de différents pays et plus tard, sur un ordinateur, des recherches spécifiques concernant le pont d'Iéna et la tour Eiffel, de quoi alimenter l'hypothèse de projet d'attentat que les prévenus ont toujours nié.
Plus d'un millier d'élus locaux, maires, présidents de régions et de départements ont lancé hier soir un appel pour relancer la décentralisation et avoir une concertation sincère avec l'État. À l'occasion du congrès des régions réuni à Marseille, des élus locaux qui dénoncent le manque d'écoute de l'exécutif alors que le Premier ministre Édouard Philippe doit venir ce matin défendre la politique menée par son gouvernement. Une grève aujourd'hui dans les lycées professionnels, une intersyndicale appelle à protester contre une réduction du volume d'heures de cours dans certaines disciplines. Décision du ministère de l'Éducation nationale qui espère ainsi absorber une partie des 1800 suppressions de postes annoncées pour l'an prochain. Sa candidature à la Cour suprême a été fragilisée hier par deux nouvelles accusations d'agression sexuelle. Le juge Brett Kavanaugh doit être auditionné aujourd'hui par le Sénat américain qui doit valider ou non son entrée dans la plus haute juridiction américaine. Brett Kavanaugh soutenu une fois de plus hier par Donald Trump aux États-Unis. Au Mexique, des manifestations ont eu lieu hier pour rappeler le 4e anniversaire de la disparition des 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa. Ils avaient été enlevés le 26 septembre 2014 par des policiers municipaux de la ville d'Iguala dans le sud du Mexique. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées, mais l'enquête est entachée de multiples irrégularités, comme les tortures infligées à certains accusés. Le reportage d'Emmanuel Stills à Mexico.
Une fois de plus, les étudiants mexicains ont compté jusqu'à 43 et réclamé justice pour leurs camarades disparus. Une quête de justice inaboutie alors que 4 ans durant, le parquet fédéral a maintenu sa version de l'affaire. Les étudiants auraient été enlevés par des policiers corrompus, assassinés par un cartel et leurs corps brûlés dans une décharge. Les organismes internationaux et les experts indépendants qui se sont penchés sur le dossier ont discrédité cette théorie. Comme les autres parents des disparus, Margarito Guerrero n'y croit pas non plus.
Nous ne voulons plus de ces mensonges. Il y avait beaucoup d'autres pistes qui auraient dû être explorées et que le parquet fédéral n'a jamais suivies. Il doit y avoir une vérité quelque part. L'enquête ne peut pas s'éteindre.
Une vérité que le futur président Andrés Manuel López Obrador a promis de révéler.
Aclarar el lamentable caso
Lors d'une rencontre avec les parents des 43, il s'est engagé à créer une commission de vérité. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé les tortures infligées à plusieurs détenus. Luis Tapia, avocat de l'organisation qui représente les parents des 43, déplore 4 ans d'enquête dilapidée.
Il est évident que la torture nous éloigne de la vérité. C'est une pratique bien ancrée dans le système judiciaire mexicain et dans ce cas, elle a été appliquée pour soi-disant élucider l'un des cas les plus graves de violation des droits de l'homme.
En attendant, les étudiants mexicains se demandent pourquoi on les tue. S'il représente l'espoir de l'Amérique latine.
Emmanuel Stills à Mexico pour France Culture. Le temps de ce jeudi 27 septembre, nuageux ce matin, de plus en plus ensoleillé au fil des heures. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 26 degrés au nord de la Seine, 24 à 32 degrés sur le reste du pays, Guillaume.
Merci beaucoup Catherine Dutu, 7h36 sur France Culture.